Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Cause! Salut! Vous êtes comme moi. Vous avez de la difficulté avec les règlements de ce jeu? Eh bien, bienvenue à Règlements en images. Nous allons simuler une partie à 4 joueurs. Et ces 4 joueurs sont... Je crois que tout est au point. Alors, débutons la partie.
Et oui, bienvenue sur les ondes de Puissance Maximale, votre magazine de jeux ludiques. Ce que vous venez juste d'entendre à l'instant, et puis je suis sûr que vous êtes posé tous la question, mais qu'est-ce que ça peut ben être ça, cette histoire de poum poum? C'est comme quelque chose qui est un petit peu décalé, qui n'existe pas vraiment. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est, je dirais, sûrement un vent de fraîcheur parmi tout ce qu'on peut faire à l'heure actuelle dans les jeux de société. C'est une petite maison d'édition qui vient de Montréal, que nous avons invité aujourd'hui, qui ont eu la gentillesse, en fait, de venir se déplacer pour venir nous rencontrer, qui viennent nous présenter leurs jeux. En fait, si vous allez faire un tour sur leur site, il s'agit ici de Synergeux, S-Y-N-E-R, comme jeu J-E-U-X, eh bien vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, le jeu est basé, en plus, non seulement est très intéressant, mais en plus, ils vous ont concocté une série de vidéos qui vont vous permettre de connaître et de comprendre toutes les règles. Et ces vidéos-là méritent vraiment, vraiment qu'on s'y attarde. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente tout de suite, c'est tout simplement Pascal et Steve Lessard. Ce sont les deux concepteurs du jeu qui s'appelle La Cosa Nostra. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Salut.
Merci beaucoup d'être venu. Donc La Cosa Nostra, c'est un tout nouveau jeu, si je comprends bien.
Effectivement.
Un jeu de société, c'est-à-dire avec des cartes, avec tout du matériel, pour jouer à peu près combien de joueurs?
En fait, c'est de 4 à 8 joueurs.
4 à 8 joueurs, ok. Évidemment, on s'entend, ça s'adresse à un public plutôt, je dirais, averti ou même quasiment adulte.
Oui, ben on a mis ça à 13 ans et plus.
Oui.
Et puis, effectivement, c'est pour jeunes adultes, si on veut, là.
Parce que c'est pas vraiment violent, c'est des sous-entendus de violence, mais il n'y a pas de la violence directe qu'on voit dans le jeu.
Puis, si je comprends bien, parce que la Cosa Nostra, bon, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a sûrement parmi nous qui ne savent pas que la Cosa Nostra, c'est la mafia. On s'entend, donc on est quand même dans le milieu de la pègre, c'est ça, c'est assez sombre. D'ailleurs, les vidéos sont axées complètement sur la notion de violence, on a l'impression de se retrouver dans des petits vidéos gore, un petit peu à la Kino, c'est très bien fait, j'adore. Le ton est vraiment mais superbe, génial. Puis d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour sur le site internet pour se faire une idée exactement de ce à quoi ressemblent les vidéos. On vient d'en entendre un petit extrait tout à l'heure. Maintenant, ce que j'aimerais beaucoup, c'est peut-être que vous nous décriviez le jeu, puisque vous êtes avec nous et puis qu'on a l'occasion de pouvoir pouvoir enfin avoir les créateurs qui nous expliquent le jeu.
Oui, bien sûr. Bon, donc le jeu La Cosa Nostra, c'est un jeu qui est basé sur le respect et les activités criminelles au sein de la mafia. Donc, le but du jeu, c'est de réussir à blanchir $1 million dans un des trois secteurs d'activité de la mafia, légale de la mafia, qui sont les casinos, les boîtes de nuit et l'immobilier. Donc, en début de partie, chaque personne est un mafiosi, un homme d'honneur de la famille, et dépendamment qui a le plus de respect en début de partie, parce qu'éventuellement, au cours de la partie, le respect va bouger, tout ça. Donc, il y a un parrain qui est nommé en début de partie, qui lui, tout au long de la partie, va avoir à prendre des décisions, et c'est lui qui gère finalement les activités de la famille et l'argent de la famille. Donc, chaque joueur, à tour de rôle, joue, soit monte en respect, blanchit de l'argent, fait des mauvais coups aux autres, ou toutes autres sortes d'activités là, qu'on peut faire entre les joueurs, entre les autres mafiosi, et on joue comme ça, à tour de rôle, en ronde, jusqu'à ce que ça revienne au parrain, et là, à la suite, à la fin, on vote pour la gestion du parrain, s'il a fait une bonne gestion durant la ronde de chaque joueur.
Est-ce qu'il s'agit d'un jeu de gestion, des activités louches de la mafia, ou est-ce qu'il s'agit plus d'un jeu d'ambiance, un jeu social dans lequel on va essayer d'interagir au maximum?
C'est un mélange des deux, je dirais, parce que tout au long de la partie, les joueurs vont avoir de l'interaction entre les joueurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le titre de parrain va changer régulièrement, dépendamment du respect, puis de les alliances qui vont se créer tout au long du jeu. Puis c'est ce qui rend l'interaction vraiment formidable dans ce jeu.
Puis, j'imagine que vous avez énormément de playtests, donc vous savez à peu près ce que ça donne comme rendu. Qu'est-ce que ça donne réellement? C'est quoi, l'ambiance qui en ressort?
Mais après une ronde ou deux, tout le monde embarque dans son personnage de mafiosi. Tout le monde croit là, qu'il y a un vrai mafioso qui embarque là-dedans. Puis là, il veut devenir parrain. Puis là, il essaie de magouiller quelqu'un. Il embarque quelqu'un dans ses magouilles. Puis là, finalement, il vient contre lui pour ses valeurs personnelles. Puis là, il réussit finalement.
Ça va plus loin que le jeu, finalement.
Wow, ouais.
Les gens embarquent.
Puis finalement, j'imagine qu'il y a tout un jeu de jeux d'alliances qui doivent se créer entre les personnages. Ça doit être
exactement
ça, un petit peu le concept.
Oui.
J'imagine aussi, comme c'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs, est-ce que 8, c'est l'idéal, à la limite?
La chimie du jeu est différente, dépendamment du nombre de joueurs auxquels on joue. Mais à 8 joueurs, c'est vraiment le summum, je pourrais dire.
Oui, parce qu'il y a plus d'interactions, il y a plus d'alliances. Au lieu d'être des alliances, mettons 2, 3, c'est vraiment 4 contre 4 ou 5 contre 3, puisque c'est vraiment les respects de chaque personne qui compte pour les votes. Donc, c'est important de se faire des alliances avec les autres mafiosi.
Puis à 8 joueurs, il y a toujours un traître qui sort d'une gang à l'autre.
En fait, c'était ma question. Est-ce qu'on finit la game en étant fâché contre tout le monde?
Entre autres, oui.
Il y a tout le temps quelqu'un qui nous a fait un mauvais coup dans la game, là, finalement, qu'on y en veut pour le reste de la soirée.
C'est sympathique, j'adore. En tout cas, je rappelle, donc ici, nous parlons de la Cosa Nostra. C'est édité chez Synergeux.
Oui.
C'est votre maison d'édition, s'entend.
Oui.
C'est tout nouveau?
Oui.
Ça date de quand exactement?
De 2006.
2006.
En 2006, oui.
Mais le jeu est sorti depuis cet été.
Depuis cet été,
oui,
ok.
Oui.
Donc, vous avez déjà subi un premier front de Noël.
Exactement.
Absolument.
Est-ce que ça s'est bien passé, les ventes?
Oui, ça a relativement bien été.
Oui.
Je vous avouerai qu'à ma grande honte, j'ai découvert votre jeu très récemment, mais il faut dire qu'à ma décharge, vous êtes distribué de manière assez encore
très
anecdotique.
Local. Très locale. Oui, oui, oui.
Vous êtes distribué où exactement? On peut donner les noms des magasins, ça ne pose pas de problème.
On est au Carta Magica.
Oui, ça c'est à Montréal.
Oui. Ouais. On est surtout en région de Montréal. Il y a le Valet de Cœur,
oui,
ainsi que le PC Arcade à Longueuil, sur la rive sud.
Donc finalement, vous êtes des produits de Montréal.
Mais ouais, on le vend aussi en ligne, étant donné qu'on n'avait pas accès à toutes les autres régions du Québec. On l'offre aussi en ligne au même prix qu'en boutique, livraison incluse.
En tout cas, on espère avec hâte que ça va venir ici parce que les gens aiment toujours regarder les boîtes avant toute chose. Dites-moi, vous êtes deux jeunes créateurs, puis moi, j'adore les jeunes créateurs. Hein. C'est vous qui avez inventé le jeu, là.
Oui,
on s'entend. Puis on est vraiment content que ce soit enfin, je dirais, du sang neuf qui arrive parmi les créateurs. Puis entre autres, que ce soit des Québécois, c'est toujours très agréable. J'imagine que ça a dû être un long et pénible, je dirais, périple pour en arriver à éditer. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'historique de ce jeu?
Oui, en fait, nous, on a toujours été depuis qu'on est jeune, on a toujours changer les règlements des jeux, inventer des jeux, ces choses-là. Puis la façon que ce jeu-là a été créé, c'est on était justement des fans de films de mafia. Et puis, lors de l'écoute de la trilogie du parrain, on a décidé qu'on pourrait faire un jeu qui reflèterait vraiment le milieu criminel, puis où ce que les gens pourraient vraiment embarquer dans le rôle du criminel.
Donc, c'est vous deux qui, à la base, avez pensé à cette idée-là.
Ouais. Absolument, ouais.
Et puis, j'imagine que vous avez mis ça sur papier, puis que vous avez commencé à faire un petit prototype, finalement.
Oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup d'essais, erreurs et de changements de direction, d'ajouts, testing. Il y a eu énormément de changements pour donner un résultat très agréable, je pense.
Oui, est-ce que vous êtes content du résultat?
Ouais, absolument.
Oui,
absolument.
Ouais. Au niveau des dessins, parce que là, on n'a pas parlé non plus du côté visuel de la boîte. Je veux dire, c'est une très, très belle boîte, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, une boîte, je dirais, de jeu. Mais je dirais que le graphisme et puis l'esthétisme est vraiment très marqué. J'aime beaucoup. C'est assez sombre. C'est sûr qu'on parle de la Cosa Nostra, donc c'est sûr que ça va avec la thématique. Mais l'ensemble est vraiment très liché. Ça fait BD. Ça fait vraiment bande dessinée. Puis je pense que l'intérieur, le matériel aussi, les personnages en tant que tels me font penser beaucoup aux personnages qu'on peut rencontrer dans certains jeux vidéo aussi à l'heure actuelle qui sont très célèbres. Donc j'imagine que c'est vous qui les avez fait, les graphismes?
Oui, oui, oui.
En fait, c'est Pascal.
C'est Pascal, oui.
Pascal, il crée tous les dessins.
Puis j'imagine, est-ce que le matériel provient du Québec? Est-ce que c'est monté et complètement assemblé ici au Québec?
Absolument, oui. C'est imprimé, fabriqué, assemblé ici au Québec.
D'accord. Puis ça se détaille à peu près à combien, votre jeu?
Notre jeu est détaillé à 29,99.
Mon Dieu, mais c'est pas cher. Puis j'imagine que d'ici très peu de temps, vous allez nous sortir tout ce qu'il peut y avoir d'extension.
Effectivement, on travaille sur le sujet, sur une extension qui, non seulement ça va être juste des cartes ajoutées au jeu, mais on va essayer de donner une nouvelle dynamique au jeu avec une nouvelle extension.
Une nouvelle jouabilité au jeu. Donc, avec un jeu, on serait capable d'avoir deux jeux, deux façons de jouer, en fait.
Puis, si vous suivez la logique du marché, normalement, d'ici peu de temps, vous devriez nous sortir le jeu à deux. Puis après, la version pour la voiture.
Pourquoi pas?
Puis après, évidemment, nous aurons le jeu vidéo sur la Cosa Nostra, ce qui devrait être tout à fait logique et impressionnant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Ça fait plaisir.
Puis je rappelle le nom du jeu. Il s'agit de la Cosa Nostra. C'est édité à la maison d'édition Synergeux, Synergeux. D'ailleurs, je vous invite tous à aller sur le site internet sur lequel vous allez pouvoir voir les deux, vos deux petites faces à vous deux.
Absolument.
Il s'agit ici de Pascal et Steve Lessard, qui sont les deux concepteurs du jeu. Et puis, évidemment, comme ils sont venus nous présenter leur jeu, puis comme à chaque semaine, on aime beaucoup faire tirer des jeux, ça tombe bien, on en a une boîte à faire tirer aujourd'hui à tous nos auditeurs, aux auditeurs de la station de CKIA. Il s'agit évidemment pour vous de téléphoner, pas maintenant parce que ça ne servait à rien, je ne peux pas répondre, mais pendant la petite pause musicale, vous allez pouvoir nous téléphoner pour gagner le jeu en pianotant sur votre téléphone le 529 90 26. Il faut être membre de CKIA pour gagner ce jeu, mais je suis sûr que soit vous l'êtes, soit vous allez le devenir. Merci encore à vous deux.
Un plaisir.
Merci
beaucoup. On va vous suivre et puis surtout, on va essayer avec beaucoup d'intention parce que très bientôt, on va faire un test de votre jeu puis on en fera une critique promis sur les ondes avec tout ce qu'on a pensé de bien et de mal de votre jeu. Excellent. On vous remercie encore beaucoup et puis on va se laisser sur une chanson québécoise de pur style. Salut, à tout de suite.
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bons ou de mauvais souvenirs. Le vide, je veux le remplir avant que mon âme s'assèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses. ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout. Sachez que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
We here at Hamax hope you enjoy your ride and that you have a pleasant and productive day.
Et oui, c'est sur le thème en fait de B-Movie, le jeu inspiré du film du même nom, que nous introduisions Virginie Fauché, qui est aussi aux relations publiques de Binox. Bonjour Virginie, comment vas-tu ?
Très bien, et vous ?
Oui, ça va très 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 bien. Puis Binox, en ce moment, eh bien, ça va très 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 fort. En fait, il se passe tellement de choses, ça va tellement vite que eh bien, ça valait la peine aujourd'hui de t'inviter pour en apprendre un petit peu plus. Il me semble que vous avez deux bonnes nouvelles en une sur la même semaine, ça commence à faire beaucoup.
Ben oui, et voilà, cette semaine, la semaine dernière, on a eu une surprise extraordinaire. Il y a le Game Developers Research, qui est un organisme d'évaluation, en fait, des développeurs de jeux, qui a fait un top 50 des meilleurs développeurs de jeux vidéo au monde. Et à notre grande surprise, Binox s'est mérité la 33e place, donc c'est une belle récompense pour notre équipe.
C'est drôle parce que quand on dit 33, d'un seul coup, on se dit « ouais, c'est pas si bien que ça », mais quand même, on parle de Québec, la ville, vous êtes les seuls à être sur ce classement-là à Québec.
Tout à fait, on est les seuls à Québec, on est 5 au Canada, et évidemment, c'est un classement qui est international. On se retrouve au-dessus, entre autres, dans le classement de gens comme Sega Japon, des choses comme ça, des studios qui sont très, très gros. Alors, on est très fiers.
Eh, félicitations. Dis-moi, c'est quoi les paramètres qui ont été pris en compte pour le classement?
En fait, tous les développeurs de jeux au monde qui ont produit un titre en 2007 ont été évalués, entre autres sur le nombre de ventes, le nombre de jeux produits, le score des jeux, en fait les critiques. Ces données-là ont été croisées à un sondage anonyme qui a été fait auprès des gens qui travaillent dans le domaine, qui ont demandé de classer entre autres les développeurs de 1 à 10, placer leurs commentaires. C'est là-dessus qu'on s'est mérité la 33e place. Puis je peux me permettre... Le texte dans le Game Developers Magazine qui est paru en mars dernier, en fait, qui est paru la semaine dernière, met l'emphase sur les conditions de travail chez nous. Donc, le texte, c'est un court texte qui parle de Binox, mais qui est très flatteur, qui dit que la compagnie a un avenir très prometteur et que, voilà, les conditions de travail chez nous sont très bonnes. On est une grande famille, on a une bonne attitude envers les employés. Bref, c'est le fun de travailler chez Binox.
Finalement, vous ne les fouettez pas.
Non, voilà. On non,
c'est déjà bien. Mais moi, c'est ça qui m'impressionne, en fait, c'est que finalement, ils ont fait appel directement à l'interne. C'est complètement anonyme. Ils ont reçu des réponses de la part de vos employés. Et vos employés vous ont très bien coté à l'interne. C'est ça, c'est ce que je comprends?
Tout à fait. À l'interne et à l'externe, évidemment.
Oui.
Mais à l'interne, on avait beaucoup de bons commentaires.
Waouh, mais c'est super. Est-ce que ça veut dire que vous avez un taux de roulement qui est qui est inférieur à ce qu'on retrouve sur le marché?
En fait,
au niveau
je peux
de
vous
votre
faire,
employé?
Oui, effectivement, la moyenne dans le domaine de taux de roulement est de 24 % Chez Binox, elle est de 4 % Une autre statistique dont on est très fiers, c'est que nous, on a zéro personne dans les dernières années qui sont parties vers un autre développeur de jeux vidéo. Donc, on a des gens qui arrivent, des autres développeurs qui viennent chez nous, mais on a personne qui part. Donc, wow. On en est très fiers. On fait aussi des sondages à l'interne sur l'auto-satisfaction des employés. De mémoire, c'est quelque chose comme 99 % des employés qui sont satisfaits des conditions.
Mais quel est le secret de Binox?
Bien, je crois que c'est une équipe tricotée serrée, des bonnes conditions. Le président Dominic Brown, qui est jeune, qui se fond dans les employés.
Il a quel âge exactement, Dominic
Brown?
Il a 29 ans.
Il va avoir 30 ans au mois de juin.
Il a commencé la compagnie à quel âge?
Ça fait 8 ans, oui, donc à 21 ans.
C'est incroyable. Hein?
C'est incroyable.
C'est vraiment incroyable. 21 ans. Il avait 21 ans quand il a fondé Binox. Puis oui. Là, quand on regarde à quoi ça ressemble, on se dit, mon Dieu, mais oui, il suffit juste d'avoir des bonnes idées puis d'avoir finalement du talent.
Voilà, beaucoup de volonté. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête de 150 employés. On prévoit créer 150 autres emplois à Québec d'ici 2009. Donc, tout va très bien pour Binox.
Bon, ben, c'est génial. Et puis, vous avez une deuxième très bonne nouvelle. Là, par contre, c'est sur le jeu The B-Movie Game qu'on a déjà présenté la semaine dernière avec Vincent.
Oui, alors les bonnes nouvelles n'arrêtent pas. Oui. B-Movie Game qui est sorti en octobre 2007. Il y a une équipe de 80 personnes qui ont travaillé sur le jeu pendant 18 mois et leurs efforts sont récompensés. En plus d'avoir gagné il y a quelques semaines le E-Parenting Media Award, qui catégorise B-Movie Game comme meilleur produit 2008. Cette semaine, on a gagné le Parents' Choice Award. Donc, encore une fois, c'est des organismes qui peuvent se comparer un peu à Protégez-vous ou l'Office de protection du consommateur, mais américain, qui ont classé notre produit comme étant un produit très sûr pour les enfants. Donc, on en est très contents.
Ah, c'est super. D'autant plus qu'il me semble que vous aviez été nominé pour les Annie Awards.
Oui, tout à fait. On a été nominé dans Best Animated Video Game aux Annie Awards à Los Angeles en février dernier. Malheureusement, on n'a pas gagné. Mais les Annie Awards, ça se compare souvent aux Oscars du jeu vidéo. Donc, juste être nominé, c'est déjà une belle récompense.
Puis dis-moi, la semaine prochaine, je pense que... Non, c'est-tu la semaine prochaine? Oui, c'est la semaine prochaine. Vous allez participer à un événement qui va avoir lieu à Québec dans le cadre du festival. C'est lequel festival? C'est des Trois Amériques?
Oui, voilà, Festival de cinéma des Trois Amériques. C'est une journée, en fait, c'est le samedi 29 mars. C'est une journée qui s'adresse au grand public qui s'appelle la journée « Ma carrière en jeu ». Ça vise à informer les jeunes, en fait, sur les carrières qu'il y a dans le domaine du jeu vidéo. Je dis les jeunes et leurs parents. Tout le monde est invité. Ça se tient à l'Hôtel Pur sur De la Couronne de 10h à 16h. Donc, je répète, samedi le 29 mars de 10h à 16h à l'Hôtel Pur. Il va y avoir des conférences toute la journée, des stands des compagnies de jeux vidéo et des stands des écoles également. Université Laval, Cégep Sainte-Foy, Cégep Limoilou. Donc, pour informer les jeunes sur les plans de carrière dans le jeu vidéo.
C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est sûr et certain que Puissance Maximale sera sur place parce que nous, on ne veut absolument pas manquer ça. Et puis, ben, pour tous les parents ou même pour tous les enfants, ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans l'avenir et que, évidemment, les jeux vidéo, c'est une passion. C'est forcément une passion. Donc, c'est peut-être une belle occasion d'aller rencontrer justement toutes les compagnies qui se font à Québec et puis de pouvoir se faire une meilleure idée. Donc, c'est un rendez-vous pour tous. Puis, ben, je vais te remercier tout de suite, Virginie Fauché, d'être venue à l'émission. Puis, on va se dire à très, très bientôt. On va suivre de toute façon ce qui va se passer à Binox parce que c'est un incontournable de Québec. Merci encore.
Merci beaucoup.
Salut. Puis nous, juste le temps pour nous d'écouter une troisième toune. Puis on va pouvoir tout de suite après se retrouver en compagnie de Vincent Langlois qui va nous parler aujourd'hui d'un nouveau jeu de la Wii. On se retrouve tout de suite après la musique.
Were my own ally. Now you're looking around for an alibi. Won't you go ask him who set on the set of lies? You cheated me and I can't believe it. I've been calling since 4 o'clock last night. Oh, you cheated.
beaucoup Maximal Sumo. Fin.
The Eye of Judgment.
Et oui, quand on entend ce générique-là, ça veut généralement dire que nous sommes en compagnie de Vincent Langlois, notre œil du jugement, notre critique, je dirais, des jeux de console. Et aujourd'hui, eh bien, Vincent, que j'annonce aujourd'hui. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Tu vas nous présenter un autre jeu de la Wii. Et finalement, tu es complètement abonné à la Wii.
C'est pas nécessairement que je suis abonné à la Wii, mais tout simplement, c'est que les bons jeux sortent présentement et c'est ceux que j'ai entre les mains.
Et aujourd'hui, tu nous présentes Super Smash Bros. Brawl.
Tout à fait.
En fait, on va l'appeler SSBB.
Si tu aimes mieux, on va y aller comme ça.
Parce que je t'avoue que le nom est absolument imprononçable, en tout cas pour moi. Donc, Super Smash Bros. Brawl, SSSB, ça mange quoi l'hiver, ça, exactement?
Bien, c'est un jeu de combat, mon cher Sébastien. Et c'est le troisième jeu de la série. Il y a un jeu premier qui est sorti en 1999 qui était tout simplement le Super Smash Brothers. C'était pour la Nintendo 64 et le Super Smash Brothers Melee qui est sorti pour la GameCube en 2002. Donc, un jeu de combat qui se joue de 1 à 4 joueurs, édité et développé par Nintendo. Il est sur nos tablettes depuis le 9 mars, donc depuis dimanche dernier, c'est tout nouveau. Et il se détaille à 49,99$. Le jeu de combat, bien sûr, c'est un jeu de Nintendo, donc on ne s'attend pas à un jeu de combat du style Virtua Fighter ou bien Mortal Kombat, dans lequel on voit souvent du sang ou des choses comme ça.
Est-ce que tu es en train de nous dire que c'est politically correct? C'est gentil?
Très correct, tout à fait. Oui. Des combats très gentils.
Ça veut dire qu'ils se font mal, mais pas vraiment.
C'est en plein ça. Le but du jeu, finalement, c'est de faire sortir son adversaire de l'écran de télévision. Donc, il y a des petites arènes de combat qui peuvent être bien des choses. Ça peut être, en fin de compte, les arènes de combat sont faites en fonction de différents jeux vidéo qui sont du passé. Exemple, Animal Crossing, Zelda. Et le but, bien sûr, c'est de sortir son adversaire de l'arène. Qui sont nos adversaires? Qui sont les joueurs que l'on fait? En fin de compte, les personnages que l'on contrôle, bien, ce sont tous des personnages de Nintendo.
D'accord.
Mario, Donkey Kong, Link de Zelda, Fox McCloud, Star Fox, tous les personnages de Nintendo sont dans le jeu et on doit les utiliser, leur faire faire différents mouvements. Et bien sûr, chaque personnage a son mouvement typique. Si on joue avec Link, qui est le personnage de Zelda, Link a un bouclier et une épée. C'est certain qu'on va sortir le bouclier et l'épée pour se battre.
Dis-moi, est-ce qu'il y a quand même un peu d'originalité par rapport à d'autres jeux de combat? Parce que quand même, les jeux de combat, ça a été pendant très longtemps des jeux extrêmement populaires. Donc, on a quand même fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'il y a quand même un peu d'originalité, outre le fait qu'on utilise des personnages connus de Nintendo?
Oui, bien tout à fait. En fin de compte, ce sont les modes qu'on a dans les jeux qui sont intéressants. On a le mode joueur solo. Et là-dessus, on a plusieurs sous-modes. Il y a la bataille classique, bien sûr, on ne peut pas passer à côté. Donc, on joue seul contre l'intelligence artificielle de la Wii qui nous fait affronter différents personnages. Et on doit se battre pendant 10 combats. Donc, passer les 10 combats par niveau pour pouvoir finalement gagner le niveau facile, par exemple. Ensuite, on passe au niveau normal et ensuite au niveau difficile. Il y a, dans le mode solo également, des événements. On doit compléter différents objectifs dans le jeu, toujours en se battant. Par exemple, on doit, sur un terrain, sur un stade, en plus de se battre, on doit détruire le terrain en donnant des coups à terre et le faire disparaître. On doit survivre, par exemple, aussi à un parcours de Mario. Le jeu Mario Bros, vous vous souvenez toujours du jeu Mario Bros dans lequel on devait passer de la gauche à la droite de l'écran? Ben, c'est la même chose. On doit se battre avec les concurrents, passer un tableau de Mario en se battant et arriver au drapeau à la fin.
Dis-moi, est-ce que, parce que là on parle de la console Wii, et puis quand on parle de la console Wii, on parle d'interaction, de possibilités, je dirais, un petit peu plus élevées de pouvoir utiliser les Wiimotes. Donc, est-ce que ça, c'est un bon rendu? Est-ce qu'on peut en effet, je dirais, faire des petits gestes qui vont correspondre à une vraie attaque, à des vrais combats grâce à ce nouveau mode de gestion?
Et en fait, c'est que le jeu permet quatre possibilités de jouabilité, disons, avec les manettes. On peut jouer avec la Wiimote et le Nunchuck, les deux qui se branchent l'un dans l'autre. On peut jouer seulement avec la Wiimote, de façon avec comme une manette classique, en fin de compte, de l'époque. On peut jouer avec la manette classique de la Wii, qui s'insère finalement dans la Wiimote. Et on peut également jouer avec la manette de la GameCube. C'est sûr que si on veut avoir un petit peu plus de plaisir et de bouger un peu plus, il faut prendre le contrôle Wiimote et Nunchuck, qui ont été faits justement pour la Wii. Moi, c'est après plusieurs essais, parce que je dois dire que j'ai essayé toutes les façons de le faire, c'est la manière que j'aime le plus, le Nunchuck et le Wiimote. C'est sûr qu'on bouge. Chaque personnage a des attaques spéciales. On a des attaques normales, on a des attaques spéciales, et on a une attaque smash, qui est souvent l'attaque finale, en fin de compte, pour se débarrasser d'un adversaire et le faire sortir du terrain. Et cette attaque smash-là, on la fait justement en secouant la Wiimote, de droite à gauche, ou peu importe le sens, et c'est la façon de le faire. Donc oui, il y a des belles qualités au niveau de la jouabilité, mais si j'avais une note à donner cette partie-là de jouabilité, mm-hmm. pour moi, là, ce serait environ un 7 sur 10. Okay. Parce qu'il y a des contrôles à apprendre, il faut les savoir rapidement. Si on veut s'amuser avec des gens qui sont bien ancrés dans le jeu, c'est quand même assez long de s'y faire avec ces contrôles-là. Ils ne sont pas toujours faciles de jouer. Pour ce qui est du contrôle, jouabilité, je mettrais à peu près un 7 sur 10.
Dis-moi, est-ce que c'est un jeu qui joue bien à plusieurs personnes ou est-ce qu'on joue plus agréablement juste avec une seule personne contre l'ordinateur, finalement?
Bien, justement, ça a une influence sur un peu nos graphiques dans le jeu. Mm-hmm. Si on joue seul, c'est certain que la caméra du jeu, disons le zoom, est concentrée sur les deux joueurs. À deux, ça va bien. À trois aussi, sauf aussitôt on revient à trois ou quatre joueurs, parce que le maximum, c'est quatre joueurs. L'écran, parfois, s'en va en zoom out, qu'on appelle. Donc, on agrandit l'écran. Et j'ai joué sur une 52 pouces. Et parfois, on perd notre personnage. Comme c'est loin, on n'est pas trop sûr si c'est nous qui nous battons, des choses comme ça. Donc, moi, je préfère bien sûr jouer à du 1 contre 1.
OK. Et puis finalement, si tu avais à donner une cote générale, tu lui donnerais combien?
Mais la cote générale, en fin de compte, moi, j'avais donné pour ce qui est des modes, parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu le temps de parler non plus des modes multiplayer, donc multijoueurs qui peuvent être en ligne avec des amis. J'avais donné à peu près un 9 sur 10 pour la cote des modes, parce que c'est certain qu'il y a un jeu. C'est un jeu qui... Mais là, je te le dis, c'est le 9 sur 10 seulement pour les modes. Ensuite, la jouabilité, je donnais un 7 sur 10. Ensuite, bien sûr, j'avais l'ambiance, les graphiques, la musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la musique de nos anciens jeux. Mm-hmm. On joue avec la nostalgie du joueur qui a joué longtemps avec Nintendo.
Puis ça, je suis sûr que ça doit toucher Mathieu Place qui nous a rejoint. Bonjour Mathieu, en fait, bonjour. En passant.
Pour ce qui est de l'ambiance, je donnais un 8 sur 10 et c'est ma note finale pour le jeu. Donc, un 8 sur 10 parce que j'ai été vraiment impressionné. C'est sûr qu'avec la Wii, on va toujours revenir au même commentaire. Bon, on a toujours des graphiques un peu bande dessinée. C'est très loin des Call of Duty de ce monde où là, c'est la réalité presque. Mm. On reste avec des graphiques bande dessinée, mais au niveau du graphisme, justement, des animations, c'est très bien fait.
J'ai une question, par contre, à savoir sur les personnages. Est-ce qu'il y a encore la présence de Pikachu ou bien là, il est passé mode, il n'existe plus?
Pikachu est toujours là. On a même repris des personnages du bon vieux temps du NES, du Nintendo Entertainment System, oui. Du style Pit de
Kid Icarus.
De Kid Icarus. Oh, oui, Pit a été redessiné et on le voit en trois dimensions. Donc, pour une première fois, on le voit comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, on joue avec la nostalgie. Là. Mm-hmm. Ceux qui ont joué à Kid Icarus sont super heureux de jouer avec...
En plus, il y a eu un seul jeu de Kid Icarus dans les années 80. Tout à fait. Alors, il faut vraiment connaître la NES là, pour pouvoir connaître le personnage.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a Sonic? Est-ce que Sonic a été intégré?
Ben, en fin de compte, Sonic, on sait très bien que Sonic, c'est pas un personnage de Nintendo. Mais oui, Nintendo est allé chercher deux personnages qui sont comme, disons, de troisième appartenance, en fin de compte, ouais. Qui ont joué sur certaines consoles Nintendo, mais qui ne sont pas développées par Nintendo. Mm-hmm. Ils sont allés chercher Sonic chez Sega,
oui.
Et aussi Snake de Metal Gear Solid, qui est un jeu d'espionnage, des choses comme ça.
Alors, on peut faire affronter Snake et Pikachu dans un
tout
grand
à fait,
combat à mort.
Mario, on est habitué de Mario et Donkey Kong ou Mario et Bowser, donc... On peut même le faire affronter justement Pit de Kid Icarus avec Mario, si tu veux.
Donc, on va rappeler le titre du jeu. Il s'agit de Super Smash Bros. Brawl, auquel tu viens de donner encore une note excellente, parce que ça, à chaque semaine, finalement, tous les jeux que tu nous présentes sont excellents.
Ben, en fin de compte, c'est peut-être le choix que je fais ou ce que l'on reçoit. Quand j'en recevrai des moins bons, c'est certain qu'on ira un petit peu plus bas.
Puis, il s'agit d'un jeu qui se joue sur la Wii. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous saviez que la Wii est considérée à l'heure actuelle comme un jeu, une console qui est non fumeuse? Et oui, c'est ce qu'on vient d'apprendre à l'instant même, parce qu'en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les fumeurs engendrent des perturbations au niveau de la lecture de la Wii. Donc, il est fortement conseillé de ne pas fumer. C'est très sérieux. C'est une alerte qui a été faite par Nintendo pour tous les joueurs d'essayer d'éviter de fumer proche de la Wii. Donc, avis à tous les fumeurs, peut-être s'arrêter de fumer si vous commencez à jouer à la Wii. De toute façon, c'est bon pour votre santé. Puis, comme la Wii, de toute manière, c'est aussi fait pour s'activer, ben, c'est doublement meilleur encore pour votre santé.
Ouais, ils sont fins, les gens de Nintendo.
Oh, ils sont extraordinaires.
Je voulais tout simplement te dire, je te remercie pour le commentaire, parce que quand tu as dit non-fumeur, je pensais que tu faisais allusion à certaines consoles qui surchauffent trop, et peut-être que certains petits morceaux de fumée pourraient sortir de ces consoles.
D'accord.
Je n'en nommerai pas, mais bien sûr, elles sont de dernière génération.
Bien, en tout cas, merci beaucoup, Vincent, pour cette chronique. Et puis, on se revoit sûrement la semaine prochaine, j'imagine.
Tout à fait.
Bon, c'est génial. Puis, en attendant, bien que nous allions rejoindre un de nos deux champions, parce que vous savez que Puissance Maximale parraine chaque, bah, depuis maintenant quasiment 6 mois, parraine deux super cyberathlètes, les fameux la nouvelle génération finalement de ces athlètes qui jouent à des jeux électroniques. Et en particulier, bien, nous avions Stéphanie Harvey que nous suivons constamment. Et il y a aussi maintenant Marc-André Forglory Stessier que nous suivons, qui est devenu un quasi-professionnel sur le circuit et que nous allons rejoindre dans quelques minutes. Juste le temps pour nous d'aller pianoter sur le téléphone pour aller le rejoindre. Et puis on se rejoint tout de suite après cette petite pause.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs. Comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on n'a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour pour son facteur,
comme ça pour rien.
Je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié. Je me suis réveillé ce matin dans tes bras. Comme ça pour rien, j'étais content, j'avais enfin un bon karma. Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir. J'en ai soupé, et vous aussi. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs et l'angoisse de la rouée. Mais de l'amour pour son facteur, je me suis réveillé de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. J'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
J'ai changé tout d'un coup.
Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié. Tout oublié.
Thank you.
ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous écoutez Puissance Maximale sur les ondes de CKIA et puis en rediffusion, évidemment, sur lepetitpeuple.fr, site que nous vous conseillons évidemment d'aller visiter puis d'aller écouter toutes les anciennes émissions de l'émission Puissance Maximale. En attendant de pouvoir rejoindre Marc-André Tessier, que nous avons malheureusement quelques difficultés à rejoindre, eh bien nous allons passer tout de suite à la chronique actualité avec Mathieu Place. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Oui, il s'en est passé des choses encore cette semaine.
Oui,
dans le
j'imagine.
Monde des actualités. En fait, le monde des actualités des jeux vidéo s'est rattaché au monde des actualités en général de la politique américaine. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de la fameuse photo de Elliot Spitzer qui est sortie dans le journal il n'y a pas très longtemps. C'est un gouverneur américain, le gouverneur de New York, qui a été pris en flagrant délit de... En fait, il a été pris comme étant un consommateur des services d'une prostituée. Et puis, c'est ça. Alors, c'était... le shérif de Wall Street, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il avait une très bonne réputation. Et puis, c'était un ardent défenseur de la moralité américaine. Et puis, il était contre les prostituées, contre la drogue, nommez-les, vous les avez tous. Et il a été pris la main dans le sac en étant un consommateur de ces services-là. Alors, moi, je trouve ça très drôle parce qu'on dirait qu'on en a un par année aux États-Unis, un grand défenseur des valeurs qui finit par se faire prendre. On dirait que... Je ne sais pas à quoi ils pensent ces gens-là. J'imagine que pour pouvoir compenser ses vices, il va aller vers la défense des valeurs. Je ne sais pas exactement parce que je me dis, ces gens-là, pour ne pas faire de vagues, ils devraient juste ne pas parler, ne pas être le porte-parole des valeurs américaines. En tout cas, toujours est-il que ce personnage-là était, entre autres, contre les jeux violents. Alors, il avait fait une très grande campagne contre Grand Theft Auto, et puis là, Grand Theft Auto 4 sortait, et on suppose qu'il va être tout aussi violent que les précédents, avec plus de réalisme et de merveilleux effets spéciaux et graphiques pour pouvoir faire une immersion plus imposante dans le jeu. Enfin, ce personnage-là était contre Grand Theft Auto et puis là, en fait, toute sa campagne est tombée à l'eau parce que toute sa crédibilité est tombée depuis le scandale de la semaine dernière. Alors, on peut se dire que c'est un ennemi des jeux vidéo en moins, malheureusement pour lui, mais bon, heureusement pour la cause des jeux vidéo et puis pour la liberté d'expression qu'on recherche dans ce médium-là. Deuxième nouvelle, ceux qui ont beaucoup aimé les jeux Lego Star Wars.
Oui, on adore ce jeu-là.
Oui, c'est très drôle.
Oui, les Lego, mais de toute façon, c'est l'univers des Lego. Hein. Comment tu veux ne pas aimer les Lego?
Ben, exactement.
Alors, même les filles qui sont parmi nous, là, je suis sûr, aiment les Lego.
Aiment les Lego, oui, c'est ça. Oui, c'est quand même assez généralisé. Et puis là, si on combine en plus l'univers de Star Wars, eh bien là, ça devient un cocktail tout à fait explosif. Eh bien, les gens de Lucas Game et puis les concepteurs de jeux qui ont travaillé sur Star Wars ont décidé de faire une nouvelle aventure, ils vont s'attaquer à Indiana Jones. Alors, on sait qu'Indiana Jones 4 va sortir cet été avec toujours notre grand archéologue à la recherche d'aventures. Et puis, ils vont faire un jeu qui va retracer les aventures de ce personnage-là. Alors, moi, je trouve que c'est une merveilleuse idée.
Et mais si ils avaient déjà fait Star Wars.
Oui.
Avaient fait quoi d'autre? Est-ce qu'ils en avaient fait d'autres?
En fait, c'est les seuls que... ils avaient fait aussi d'autres aventures, des jeux de course, des jeux de safari, photos, etc. Il y avait eu toutes sortes de jeux par rapport au Lego. À savoir s'il y avait d'autres films qui avaient été rapportés à cet univers-là des Lego, je ne saurais pas dire.
En fin de compte, c'est que Star Wars était sorti en trois volets, comme les trois premiers Star Wars. Donc, il y avait les trois volets des films. C'est pour ça peut-être qu'on pense qu'il y avait plusieurs autres films.
Il y en avait plusieurs à ce moment-là.
Ouais. Puis, ils ont fait la trilogie par après en un seul jeu.
En fait, la nouvelle ne dit pas si Indiana Jones, le jeu de Lego, va se rapporter au nouveau film qui va sortir ou bien si c'est une espèce de rétrospective de tous les films, mais toujours est-il que je trouve ça fantastique. En plus, habituellement, il y a une fonction dans ce genre de jeu-là où on peut mélanger les personnages, choisir la tête de l'un avec le corps de l'autre. Alors, vous allez pouvoir choisir, le méchant dans le 2, avoir sa tête rasée sur le corps d'Indiana Jones avec les pattes de la pitoune du 3. Je ne sais pas pas qu'est-ce qui va charmer vos fantasmes, mais toujours est-il que ça va être possible à ce moment-là.
Et mon Dieu, des fantasmes avec Lego?
Oui, oui.
Mais quel genre d'homme es-tu?
Je m'étendrai pas là-dessus. Là, mais
dis-moi, Mathieu, avant d'aller plus loin, je te propose d'aller tout de suite rejoindre Marc-André Forglory Messier, que nous avons réussi à rejoindre tout de suite. Est-ce que tu nous entends, Marc-André? Marc-André, oui, j'aimerais beaucoup que tu nous répondes si tu nous entends. Mon Dieu, mais est-ce que ce serait encore une fois de plus? Non, eh bien, tant pis, on va continuer alors avec...
Vas-y pour une troisième nouvelle.
Eh oui, on va y aller sur une troisième nouvelle, puisque de toute façon, t'es dans ta lancée. J'imagine que c'est les Lego maintenant.
Je vais absolument vous communiquer la troisième nouvelle. En fait, c'est la Nintendo Wii. Alors, on en parle beaucoup, ils sont en pleine lancée. Eh bien, ils vont sortir une nouvelle Wii. Il s'agit d'une Wii qui est couverte de cristaux, les fameux cristaux Swarovski. Alors, est-ce que vous voulez que je le redise, Swarovski? Eh bien, c'est ça, les fameux cristaux, vous pouvez en acheter, là, vous avez toutes sortes de petits personnages, de bestioles avec. Et puis, c'est ça. Alors, vous allez pouvoir avoir votre Nintendo Wii couverte de cristaux. Alors, si vous voulez impressionner tous les gangsters rappers du quartier et puis pouvoir flasher votre fortune à tout le monde, eh bien, vous allez pouvoir avoir la Nintendo Wii couverte de cristaux. Eh bien, elle se paye, vous allez devoir la payer 5 000 $ au lieu du 269.
C'est abordable quand
même. Tout ça pour pouvoir avoir des cristaux dessus. Je me dis, vous êtes peut-être mieux d'acheter un vrai, véritable bibelot, parce que je me dis, la Nintendo, on la met dans quelque part dans une armoire. En tout cas, il me semble... C'est pas... en tout cas, pour ceux qui savent plus quoi s'acheter et qui n'ont pas des problèmes monétaires, eh bien, ça peut être une option possible. Dernière nouvelle que j'ai à vous présenter, eh bien, on parle souvent depuis le début des jeux vidéo qu'on pourrait transposer l'industrie du sexe aux jeux vidéo. Eh bien, maintenant, c'est possible. Dans toutes mes recherches innocentes sur Internet, où je fais des recherches sur toutes sortes de choses... en fait, tout à fait neutre, eh bien, j'ai trouvé des compagnies de jeux qui offrent ce genre de jeux-là. En fait, ça ressemble un peu à un Sims, vous savez, les jeux où vous devez contrôler des personnages dans leurs activités quotidiennes. Eh bien, cette fois-ci, c'est les activités quotidiennes de certains personnages, mais bon, c'est des personnages qui ne doivent pas avoir beaucoup d'activités telles que le travail ou faire le ménage, parce que c'est vraiment axé sur les activités sexuelles. Alors, vous pouvez...
Ouais, c'est super.
Oui, c'est super.
Enfin, un peu de sexe dans les jeux vidéo, ça nous manque tellement, hein?
Ben, c'est ça, il y avait déjà la violence, mais là, il manquait le sexe.
Non, c'est vrai.
Alors, voici le sexe. Eh bien, c'est ça. Alors, vous allez pouvoir concocter votre fantasme le plus sournois avec, je sais pas,
avec
les cheveux de telle couleur.
Avec des Legos, par exemple.
Non, les graphiques sont peut-être un petit peu mieux, mais cette fois-ci, c'est ça. Vous allez pouvoir l'habiller à votre manière. Alors, c'est comme une espèce de poupée digitale que vous allez pouvoir utiliser sur votre ordinateur. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous faire une espèce d'alter ego que vous allez pouvoir faire entrer en relation, en contact avec la femme de vos rêves. Alors, c'est tout à fait...
Je sens que ça fait sourire beaucoup de monde sur la table. C'est fun. Je sens qu'à mon avis, il va y avoir un testeur de jeu qui va sûrement se pencher sur la question bientôt.
À quand le test?
Avec la Wiimote, imaginez un peu tous les...
Oui, c'est ça. Toutes les choses sont possibles. En fait, vous pouvez avoir des manettes spéciales. Enfin, je vous épargne les détails, mais vous pouvez avoir une immersion totale dans le jeu, encore une fois. Oui. Alors, c'est tout à fait fantastique.
Mathieu, on va réessayer encore une fois avec Marc-André Forglory Messier. Est-ce que tu nous entends, Marc-André?
Oui, je vous entends cette fois-ci.
Oh mon Dieu, mais la technique a encore réussi. Bon, c'est vraiment fantastique. Marc-André, juste pour faire rapidement un survol de ce que tu fais, tu es un cyberathlète professionnel. Et tu es, je dirais, un des rares cyberathlètes professionnels qui appartient maintenant à une toute nouvelle ligue qui est justement Cyberathlète Professionnel League américaine. Et récemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, tu es fini deuxième au CPL World Tour. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est tout ça?
Oui, ça s'est passé il y a 2 semaines, en fait. Grande finale du circuit mondial de CPL World Tour. Donc, je me suis qualifié pendant le dernier stop en Angleterre. Et la finale avait lieu aussi en Angleterre, donc... Je suis retourné m'entraîner en Suède et j'ai finalement terminé vraiment en haut de mes espérances et j'ai surpris tout le monde en terminant deuxième. J'ai remporté 23 000 $ pendant cette finale-là, donc je suis vraiment satisfait du résultat.
Tu joues à quel jeu exactement dans ce tournoi-là?
Ce tournoi-là, je jouais à Fear et c'était mon dernier tournoi sur ce jeu-là. Je ne sais pas encore quel jeu participer l'année prochaine.
Fear, c'est un first-person shooter, c'est ça?
Oui.
C'est First Encounter Assault Recon.
Oui.
Donc, est-ce que c'est ta spécialité, ça, les first-person shooters?
Pardon?
Est-ce que c'est ta spécialité?
Oui, ça a toujours été mon style de jeu préféré, mais ces temps-ci, je commence à m'adapter à différents styles de jeu, comme par exemple les jeux de course. Je commence à développer un talent particulier aussi pour ce style de jeu-là.
Dis-moi, c'est tout nouveau là quand même, la Ligue internationale professionnelle. Est-ce que ça commence à prendre de l'ampleur?
Oui, mais les différentes ligues sont encore en train de se battre pour le marché. Donc, à chaque année, la ligue qui domine peut changer ou quoi que ce soit. Comme cette année, le CPL est vraiment en descente et Championship Gaming Series aux États-Unis est en train de monter. Donc, il y a la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, etc. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps.
Donc, finalement, c'est en train de grossir, c'est en train de prendre de l'ampleur, là, tout le côté professionnel des jeux vidéo, mais c'est encore dans une phase de transition.
Oui, c'est ça. C'est en constante transition depuis 10 ans, si on peut dire. Ça a toujours été en recherche de stabilité, puis ça l'est encore.
Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que là, 23 000 $, c'est déjà un très, très beau score. Bravo, félicitations pour la seconde place, mais j'imagine que tu t'arrêteras pas là.
Non, ben j'ai encore l'intention de jouer pendant 5 ans. Moi, je vais tout simplement choisir les jeux, les ligues qui sont les plus prestigieuses en compétition individuelle. Donc, je vais tout le temps être à l'affût de tous les annoncements qu'il y a dans les différentes ligues.
Puis si on a envie, par exemple, de t'encourager, parce qu'on est un auditeur extrêmement zélé, puis qu'on aime ça, encourager les champions canadiens, puis québécois en particulier, est-ce qu'il y a un endroit particulier où on peut venir te rejoindre, peut-être sur Internet?
Oui, je suis présentement, il y a un site web, c'est dans mon intention d'en avoir un, mais je suis présentement sur myspace.com/4_glory, donc c'est là que je suis la plus fort de mes informations. Je mets aussi comme un peu un journal de bord là, sur ce qui se passe dans mes compétitions, etc., sur ce site-là.
Hey Marc-André, merci beaucoup pour les précisions, puis surtout on va te suivre ta carrière parce que c'est vraiment passionnant de voir à quel point on est capable de, à l'heure actuelle, peut-être faire de l'argent avec des jeux vidéo. On va te souhaiter une bonne soirée puis une bonne continuation.
Et ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, hein, salut. Puis nous, évidemment, nous revenons en direct autour de la table. Il y a aussi Kevin Labrec, qui est notre champion incontesté des grandeurs nature, celui qui fait rêver toutes les femmes, en particulier la sienne. Salut Kevin, comment ça va?
Salut, ça va bien?
Oui, aujourd'hui, je pense que tu vas avoir très peu de temps, mais tu voulais nous faire un rapide survol de l'historique des GN.
Un rapide survol, je vais aller avec les points importants, justement, à la demande générale. Je me suis demandé de faire l'historique des GN. Donc, ça commence ça au 17e siècle, une marquise de Sévigny, une ville à Paris.
C'est vrai, ça a vraiment commencé au 17e siècle.
Absolument.
Marie. Mais à l'époque, c'était pas des grandes natures, on appelait ça la vraie vie.
Non, c'est des soirées mystères que la femme faisait.
Ah, ok.
Parce que c'est. Dans le fond, les GN, c'est un peu un mélange de jeux de rôle et de jeux meurtre et mystère qu'on connaît aujourd'hui. Ces petites soirées à elle qu'elle faisait la marquise Marie de Rabutin Chantal, une femme qui faisait des soirées mystères dans lesquelles ses invités, il fallait qu'ils trouvent comment résoudre l'énigme de la soirée. Donc, c'est parti de ce système-là. Puis, dans le fond, il ne s'est rien passé à peu près jusqu'à 1960. Donc là, ça a commencé à évoluer. Puis En 1983, nos amis les British ont décidé d'aller conquérir les ruines de leur château avec une équipe de monstres, une équipe de joueurs, des armes en mousse. Donc,
mais c'est vrai que quand on a un cadre tel qu'on peut les retrouver en Angleterre, j'imagine que ça doit être propice, soyons clairs. Surtout avec tout l'espèce de mythe et légende qui existe dans ce coin-là, là, j'imagine que ça doit être tellement facile.
Absolument, puis c'est ça, les Britanniques ont décidé de rendre leur partie de Donjons Dragons dans le fond, en réel, donc un guerrier avec une épée en mousse avec des points de vie à peu près infinis, un mage qui lance des petits pétards pour faire des effets de sorts, puis un voleur qui détecte les pièges, puis un maître de jeu qui disait où est-ce qu'étaient les pièges. Donc ça a commencé comme ça dans le fond, grandeur nature. Puis en 1984, ça s'est ramassé en France. Il y a deux clubs de jeux de rôle sur table qui ont commencé à faire leur propre GN. Un à Paris qui était l'AJT, puis un en Bretagne qui s'appelait Stratège et Maléfice à Nantes. Donc, on met en place leur GN, leur système de jeu, puis ça a commencé comme ça. Puis eux autres sont allés jouer en forêt. Donc c'est là que vraiment les premiers Grandeur Nature ont commencé avec nos amis les Français.
Puis c'est arrivé quand au Québec?
Au Québec, dans le fond, c'est arrivé aux alentours des années 90, à peu près. C'est, je dirais peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Là.
Dis-moi, Kevin, toi qui es notre historien, mais qui est aussi notre plus grand joueur de GN autour de la table, je sais que très prochainement, tu devrais nous faire un spécial GN.
Absolument.
C'est pour dans 2 semaines?
3 semaines.
Dans 3 semaines.
Ah oui.
Dans 3... Moi, j'ai tellement hâte que le temps ne passe pas assez vite.
31 mars, je me souviens bien.
En tout cas, est-ce que cette information-là que tu viens de nous donner, il y a un site où on pourrait peut-être en apprendre davantage? Parce que je sais que là, on a fait ça un petit peu vite, là, mais je suis sûr que c'est le genre d'information qui va passionner certains de nos rôlistes et autres grandeur nature.
Justement, si on va sur Wikipédia, on tape grandeur nature, ils vont nous envoyer un petit onglet « Jeux de rôle grandeur nature », puis il y a tout ce que je, ce que je viens de vous dire, là. Absolument tous les détails là-dessus, c'est très bien expliqué, c'est merveilleux.
Et merci Kevin, hein. Désolé pour le peu de temps qui te restait, mais c'est les problèmes techniques. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique Grandeur Nature. Puis avant de nous quitter, juste le temps de vous dire que cette semaine, jeudi, je sais que toutes les personnes qui sont intéressées à, par exemple, la carrière de designer, de game designer au sein des jeux vidéo vont être intéressés par cette nouvelle. Patrice Desilets, qui est le directeur créatif d'Assassin's Creed, le fameux jeu de Ubisoft Montréal, est de passage à Québec. Il sera jeudi à l'ENAP à 18h30. L'entrée est de $5. Évidemment, Puissance Maximale sera présent, donc vous aurez droit à un reportage de l'événement. Mais en attendant, comme à chaque semaine, on va vous souhaiter une très belle semaine de jeux. On va vous dire, messieurs, bonne soirée. Mademoiselle, bonne soirée aussi. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine pour une autre édition de Puissance Maximale qui portera encore un petit peu sur les jeux vidéo, mais avec plein de surprises, comme à chaque semaine. Allez, salut à tous. Et surtout, n'oubliez pas de jouer.
I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope.
Devenir mécène, rien de plus simple. Tous les jeudis et samedis, le bar Le Sacrilège vous convie à ses soirées parties de financement. Pour chaque délicieuse pression servie, 75 sous est remis directement au génie créatif local. Le jeudi 20 mars, venez encourager Fragments de naufrage, livre de Catherine Larochelle, dont la moitié des ventes sera remis à l'organisme Revivre. Sortez, amusez-vous et devenez mécène au Sacrilège, votre bar de quartier au 447 rue Saint-Jean.
¿Usted no tiene un conocimiento suficiente de francés? ¿Usted necesita hacer...